Comme tous ceux qui dans le monde entier nous écoutent sur Internet, vous aussi, écoutez Music Box sur le net. Notre mot de passe, musicboxtv.com.
Dites-le à vos amis.
Musicboxtv.com.
Annabelle publie son premier roman policier, Les Plumes, une enquête de Simon, c'est aux éditions Execo. Donc c'est un roman qui nous plonge en plein cœur des années 20, avec un héros italo-stéphanois. Alors, connaissant un peu Annabelle et son passé de musicienne, je suis un peu surpris de cet univers, Annabelle.
Oui, c'est vrai que ça ne correspond pas trop aux choses que tu avais l'habitude d'entendre en ce qui me concerne. C'est vrai que ça s'éloigne beaucoup de mon univers de chanteuse de folk et de country. Mais en fait, ce n'est pas si loin que ça parce que j'ai quand même des origines italiennes et je suis née à Saint-Étienne. Et c'est vrai que Simon, il vient plutôt de là, de mes origines ouvrières et de l'Italie du Sud. Et puis tu sais, après avoir raconté des histoires dans mes chansons, mes chansons m'accordaient finalement que 3 minutes de paroles. Peut-être que j'ai eu besoin d'un peu plus d'espace et de raconter ces mêmes morceaux de vie, ces mêmes histoires sur 264 pages comme dans Simon.
Annabelle, j'aimerais que tu nous parles de Simon. Simon, c'est le détective hein, de cette histoire. Un détective comme on les imagine dans les romans de Chandler, avec le chapeau, l'impair, une cigarette, et puis un peu paumé ou plutôt nonchalant.
Je dirais pas que Simon est nonchalant, je dirais plutôt qu'il est effectivement paumé. Mais je le sens plus défaitiste et désillusionné. Tu sais, c'est dans ma tête, le personnage que j'ai créé a eu une enfance de pauvre dans les mines à Saint-Étienne. C'est un homme qui n'a pas eu finalement de père. Il en a eu plusieurs. Et puis il a connu la misère de la mine. Et on le découvrira plus tard. Et il a une maman qui est haute en couleur et qui elle aussi a connu cette misère. Et en plus de ça, elle est immigrée italienne directement. Donc, si tu veux, c'est une première génération de l'immigration italienne que je connais bien puisque je suis issue de cette immigration. Et le défaitisme de Simon, il est plutôt là. Il est plutôt que il croit plus en grand chose. Le métier qui pratique l'encourage aussi à ne plus croire aux gens. Et en même temps, il est amoureux, Simon. En même temps, il aime la bonne chair, il aime la vie, il aime boire, il aime fumer. Donc c'est un paradoxe, plutôt, ce détective. Et c'est vrai qu'il est un petit peu paumé, Simon, parce que finalement, c'est quelqu'un qui n'a pas eu de repères, en tout cas qui n'a pas eu de repères masculins dans sa vie. Et les seuls qu'il a eu, eh bien, ma foi, ont été un petit peu dépourvus de sens commun et de sens un petit peu de la justice et de l'honneur. C'est en ça qu'il est un petit peu paumé, effectivement, Simon. Et puis surtout, il a un problème d'identité, il aimerait bien se marier, il ne sait pas s'il va se marier. Est-ce qu'il a confiance aux femmes? Absolument pas. Pourtant, il n'est pas misogyne, pourtant, il est quand même amoureux de sa violette qu'on voit apparaître à un moment donné dans l'histoire. Mais voilà, de là à donner sa confiance en quelqu'un, c'est encore autre chose. C'est effectivement quelque chose qui ne va pas donner si facilement que ça. En tout cas, quand il l'a donné, il l'a donné. Mais en ce qui concerne les femmes, c'est beaucoup plus compliqué.
L'intrigue de ce roman Les Plumes donc commence avec une rencontre, c'est rue de Bussy à Paris avec Lady Horbury et se poursuivra outre-Manche, cadavre bien sûr assuré, pas à toutes les pages mais il y en a quand même quelques-uns.
Oui, il reçoit une lettre, Simon, de cette fameuse Lady Horbury. Elle lui donne rendez-vous dans un café à Paris et en fait, il ne veut pas y aller, il n'a pas envie. Il pressent, je pense, qu'il va avoir toute une série d'ennuis suite à cette lettre. Et c'est vrai qu'il a un petit peu envie de changer d'univers. Il est habitué à aider les jeunes personnes, les jeunes femmes de l'aristocratie et parfois il rêve d'un petit peu plus, il rêve d'un peu plus de danger, il rêve d'un petit peu plus de suspense dans ses enquêtes. Et quand il voit que c'est encore une fois signé par une grande dame de la haute société, eh bien il y va un petit peu à reculons. Et effectivement, effectivement, il va se retrouver dans son manoir et il va aller de déconvenu en déconvenu et retrouver bien évidemment quelques meurtres. Effectivement, pas tous les jours et pas à toutes les pages, mais il va y en avoir quelques-uns qui vont, entre guillemets, aller se superposer les uns avec les autres dans l'histoire et lui causer pas mal de tracas. Ce qui va l'embêter aussi, Simon, c'est qu'il va être obligé de faire quelques efforts, de parler bien, de se tenir correctement à table comme on se tient bien dans les milieux aisés, et puis être obligé de s'intéresser aux gens, ce qui n'est pas forcément son fort.
Revenons, Annabelle, à l'univers des années folles où tu as placé ton roman. Comment t'es-tu intéressée à cette époque ?
Alors, avant de faire 20 ans de tournée, 20 ans de musique et quelques albums, eh bien, j'ai fait des études d'art plastique. Donc, si tu veux, j'ai découvert les années folles par l'intermédiaire de peintres, de sculpteurs, d'ébénistes même, que mes professeurs d'art plastique affectionnaient eux aussi. Et voilà, je me suis penchée sur le sujet des années folles grâce à l'art, même plutôt sur les années avant les années folles. J'adore Mouchat, j'adore tout ce qu'il fait, j'adore son abondance. Et donc, au fur et à mesure que je découvrais Mouchat, eh bien, j'ai découvert l'art nouveau et puis donc l'art déco, qui est quand même l'époque un petit peu des années folles.
Et qu'est-ce qui te plaît dans ces années ?
Ce qui me plaît surtout dans ces années, c'est la liberté, c'est l'insouciance, c'est l'abondance des choses et c'est un esthétique qu'on n'a plus, hélas, maintenant. C'est vrai que c'était une époque où on découvrait les choses, où on visitait les pyramides, où on voyageait énormément. Et voilà, je trouve que c'est une époque qui laissait libre cours encore à l'imagination. On n'avait pas encore tout découvert et où on était finalement libre d'être soi-même, de boire, de fumer, de danser, de chanter. Voilà, c'est une époque que j'aime à cause de ça, mais je reviens encore quelque part un peu au milieu de la musique, qui n'est pas si différent finalement que ces époques-là.
Alors ton livre est d'une écriture dense, fort documentée, hein, vraiment très pointue, avec cependant quelques anachronismes assumés, puisque révélés. Alors pourquoi ?
Écoute, en fait, je me suis dit qu'il valait mieux mettre en avant les anachronismes plutôt que d'essayer de les cacher, ce qui pouvait passer pour de la mauvaise documentation. Et vu que j'ai quand même fait très très attention à ne pas dire de bêtises au niveau historique dans les plumes, voilà, il ne manquait plus que ça, que de cacher. Non, ça ne me plaisait pas. Et puis, j'avais envie de parler de certains vins. J'avais envie de parler, parce que je suis amateur de bons vins, notamment de la côte rôtie. Et puis j'avais aussi envie de parler de Bert Silva, qui a bercé mon enfance. Ma grand-mère me chantait les chansons de Bert Silva à la longueur de journée. Et à quelques années près, Bert Silva sortait des albums, son premier album. Donc je me suis dit, bon, allez, on va quand même pas se priver de ce petit plaisir. Même s'il y a 10 ans d'écart avec les aventures de Simon, c'est pas grave. Voilà, je cite Bert Silva vraiment pour le plaisir.
Annabelle, pour parler de l'écriture, il y a beaucoup d'argot, des tournures argot poétiques, je qualifierais, et puis quelques expressions. Alors, je ne sais pas si on peut parler de patois stéphanois.
Alors, c'est pas de l'argot stéphanois, plus précisément, c'est le gaga stéphanois. C'est vrai que j'aurais plutôt tendance à dire, sans être vraiment une éminente spécialiste sur le sujet, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est un patois ou un dialecte. Et c'est vrai qu'à Saint-Étienne, on utilise beaucoup, beaucoup de gaga sans qu'on s'en aperçoive. Moi-même, quand je suis arrivée à Paris, je me retrouvais en face de personnes qui me regardaient avec des grands yeux, qui ne comprenaient pas ce que je voulais leur dire, parce que dans ma phrase, ben, y avait du stéphanois. Et c'est vrai que mes origines comptent énormément pour moi, que Saint-Étienne, malgré ce qu'on peut en penser, est une ville extraordinaire. Et les gens, les stéphanois, sont des gens gentils et accueillants. Et ils ont une manière d'être, une manière de vivre et une manière de parler. Donc voilà, c'est le gaga stéphanois. On en retrouve effectivement tout au long des aventures de Simon. Et puis, il y y a aussi effectivement de l'art gauche. Je te remercie de dire qu'il est romantique. L'art gauche, j'adore ça. Je suis une fan absolue de d'art, des San Antonio. Et en plus, tu vois, 20 ans de musique a fait que j'ai évolué au milieu des musiciens. Et l'argot des musiciens est extrêmement riche, extrêmement développé, extrêmement précis. Il y a pas mal de livres d'ailleurs, notamment un livre de Didier Roussin sur le sujet. Et c'est vrai que le monde de la musique que j'ai connu pendant 20 ans a fait que j'ai développé vraiment une passion pour ce langage un peu parallèle, peut-être même un langage qui est né pour mettre un peu à l'écart les autres. Je sais pas, en tout cas les musiciens se comprennent parfaitement, les Stéphanois parlent le gaga et se comprennent parfaitement, et c'est vrai que pour moi c'est un puits de bonheur, parce que c'est drôle l'argot, parce que c'est souvent bien plus fin à expliquer que le mot en lui-même qui serait plus poli, plus français. Il y a beaucoup de nuances dans l'argot, et c'est vrai que j'ai adoré jouer un petit peu avec ça et en mettre dans la bouche de Simon et dans la bouche d'autres personnages. Voilà, c'est un petit plaisir personnel.
Annabelle, je vais revenir à l'intrigue de ce livre. Donc, la majeure partie de l'histoire se passe dans un manoir anglais, dans un univers un peu sombre, avec un mari cocu résigné, une lady nympho, des vampires, et puis des personnages bien campés ou des seconds rôles très forts. Je vais citer par exemple Bébert ou encore Waterloo. Tu peux en parler un peu ?
Oui, c'est vrai que j'ai essayé de donner un petit peu de caractère même au second rôle. Et effectivement, Bébert est dans l'absolu l'aide, l'associé de Simon, qui est censé avoir toutes les réponses un petit peu de culturelles, un petit peu historiques. Il manie bien les us et coutumes de la haute société. Et Bébert, en fait, apparaît sur toutes les enquêtes de Simon. Il est là tout le temps, et c'est le meilleur ami en fait de Simon, et c'est peut-être le seul qui est capable de dire un petit peu ses vérités à Simon. En tout cas, c'est le seul dont il accepte les critiques et les conseils en même temps, et peut-être que les conseils qu'il suit, s'il doit en suivre quelques-uns dans sa vie, Simon, ce seront ceux de Bébert. Bébert, oui, il est issu de ce milieu aristocratique. Donc il sait bien tout ce qu'il faut faire et pas faire, et puis en même temps il sait que Simon a reçu une éducation un petit peu limitée à ce niveau-là, et donc il a parfois un petit peu honte du comportement un peu rustre du détective, et en même temps il le laisse faire parce qu'il est quand même très très attendri par ses petits impairs. Et aussi, Simon ayant un très très mauvais caractère, quand il le décide, eh bien il lâche quelques jurons par-ci par-là, un petit peu pour embêter et puis pour dépoussiérer tout ça. Et quelque part, ça doit arranger Bébert un petit peu. Quant à Waterloo, je me suis vraiment amusée à le décrire, parce que Waterloo, c'est la suite du grain de folie. Dans les personnages de Simon dans les plumes, ils ont tous un petit quelque chose. Comme tu le disais, Lady Horbury qui est complètement nympho. Arthur Horbury, son mari, qui lui, laisse faire, il abandonne un petit peu, il baisse les bras, voilà, il est cocu, résigné. Ils ont tous quelque chose, ils ont tous un petit grain. Et puis Waterloo, lui, il a carrément un grain. C'est vraiment celui qui représente la folie à l'état pur. Voilà, c'est un vicaire qui est parti pendant la Première Guerre mondiale et qui aidait à enterrer les soldats quand on pouvait le faire, qui prêchait un petit peu la foi, qui aidait, qui soutenait les soldats au front. Et bon, un jour, il a reçu un obus d'un peu trop près, et puis il a un petit peu perdu la tête. Et ce Waterloo, en fait, il est là pour aider Simon. Il donne des pistes, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Il donne des pistes au lecteur, et il essaye de parler à Simon, mais il n'a plus vraiment la tête sur les épaules. Donc, il dit des choses un petit peu décousues, mais qui sont toujours d'à propos. Donc voilà, Waterloo, je l'ai mis aussi dans le livre, parce qu'il était là pour aider le lecteur à suivre et surtout à découvrir qui était le meurtrier.
Tu peux nous dire de quelle manière tu as construit les personnalités de ces personnages ?
Alors, la personnalité des personnages, alors c'est un petit peu compliqué. Ils étaient tous un petit peu à l'intérieur de moi. Et puis, quand je les ai imaginés, en fait, je ne les ai pas vraiment imaginés. Je les ai trouvés quelque part dans ma tête. Et voilà, ils étaient comme ça. Il n'y avait pas grand-chose à rajouter ou à enlever. J'aime bien quand les gens ne sont pas, je dirais, plats. Et puis, même quand ils sont un petit peu plats, eh bien, ils ont, mine de rien, un peu de relief parce que justement ils sont différents des autres. Eh bien, on découvre au début un personnage qui va revenir plus tard, qui est le commissaire, ou la gandole qui est l'adjoint du commissaire. Voilà, c'est des personnages qui pouvaient pas être autrement dans ma tête. La gandole, forcément, qui est l'assistant du commissaire, va être pas très très intelligent, mais elle va avoir des sursauts de temps en temps de lucidité et va et faire évoluer un petit peu les réflexions des uns et des autres. Le commissaire, donc, qui est à la PJ de Paris, lui, eh bien, il va toujours être ennuyé par Simon, parce que Simon, il est juste détective, il n'est pas mandaté, il n'a pas de carte de police, il n'a rien de tout ça, mais il va toujours venir l'embêter. Donc voilà, le commissaire va être un petit peu celui qui va garder ses distances et en même temps être obligé de plonger dans les aventures de Simon et de se faire taper sur les doigts par ses supérieurs. Voilà, le commissaire, il était comme ça. J'ai pas cherché plus à définir son personnage, il était déjà là. C'est pareil pour Waterloo, qui j'aime la folie. Et voilà, Waterloo, il représente cette folie-là, qui est sans borne, sans mesure, mais qui finalement est dictée par une certaine forme d'intelligence. Après, il y a le petit Johnny, dont on parle peu, qui est un petit garçon qui va aussi aider Simon dans son enquête, parce que c'est lui qui va découvrir les vampires. Enfin, pour lui, ce sont des vampires. Et ce petit Johnny, c'est pareil, il n'est pas finalement comme les autres. Et en même temps, c'est un petit garçon, comment dirais-je, comme on les aime bien, comme on les voit à cette époque, qui part à la pêche aux grenouilles, qui a des Bermudas troués, à qui manque des dents. Voilà, enfin, il y a pas mal de personnages dans Simon. Je pourrais pas revenir trop là-dessus, mais en fait, il n'y a pas une articulation réelle. C'est des personnages qui sont venus à moi comme ça, et je me suis juste contentée de les décrire. Voilà, il n'y a pas une construction particulière que, ou en tout cas, je n'ai pas fait exprès de les construire comme ça. Ils se sont imposés à moi avec leur originalité ou pas, et leur personnalité.
Les plumes, Annabelle, donc aux éditions Ex Aequo. Alors, j'ai trouvé, Annabelle, que ce livre se terminait un peu à la manière d'un Agatha Christie, accent british en moins, dans un huis clos orchestré par Simon. Et puis, ce qui est assez fort, en fait, c'est que on est pris dans les aléas des uns et des autres, et le lecteur croit aussi à un moment suivre une piste, et puis se retrouve à son tour complètement déboussolé, pris dans les méandres d'une intrigue à rebondissement. Comment tu as construit cette... Est-ce que tu as vu venir les choses au fur et à mesure, ou est-ce que tu as construit avant justement cette intrigue?
Alors ça peut paraître étrange, mais c'est un petit peu comme quand j'écrivais mes chansons avant. Je me suis levée un matin avec l'histoire des plumes dans ma tête, et puis j'ai longtemps hésité. J'ai dit, est-ce que ça va intéresser les gens? Est-ce que ça vaut le coup que j'écrive cette histoire? Et puis finalement, pourquoi pas? Finalement, j'écrivais aussi mes chansons, je les ai pas toutes enregistrées, et puis... Voilà, donc je me suis un petit peu fait violence et je me suis mis derrière mon ordinateur et j'ai commencé à écrire Simon, qui était dans ma tête déjà construit. Après, je ne dis pas que la complexité de l'énigme, c'est pas un petit peu trouvé amélioré par certaines réflexions. Bien sûr que non, je ne suis pas non plus un auteur averti au point d'avoir dans la tête chaque ligne. Non, non, pas du tout. En tout cas, l'énigme principale de la construction, elle était faite comme ça, dans ma tête. De la même manière qu'une chanson, c'est Les chansons, c'était écrit quand je faisais de la musique dans ma tête le matin. je me levais, je prenais ma guitare et j'enregistrais la chanson. J'ai fait pareil pour les plumes en y ajoutant bien évidemment quelques documentations, quelques détails après. Et puis c'est vrai que quand on écrit plusieurs chapitres, au bout d'un moment, on est bien obligé de revenir un peu en arrière pour vérifier si on n'est pas en train de se vendre un petit peu, enfin de dévoiler un peu trop l'énigme. Et tu vois, ça me fait plaisir finalement, Gérard, que tu me dises que tu avais une idée sur le coupable et que finalement tu t'es retrouvé à pas avoir le bon meurtrier en tête, parce que c'était un petit peu ce que je voulais. Et puis quant à Agatha Christie, moi je suis fan absolue et j'étais un petit peu, moi en tant que lectrice, en manque de polar sans trop de violence, parce que en ce moment je j'ai du mal à me plonger dans les polars à hémoglobine, voilà. Et c'est vrai que dans Simon il y a pas de violence. En tout cas, il y a effectivement des scènes de crime qui sont décrites, il y a effectivement des meurtres, il y a une petite autopsie ou deux, mais c'est jamais ce qu'on peut voir à la télé, parce que c'est dérangeant finalement. Je trouve que voir l'intérieur, les viscères d'un corps, je trouve que c'est pas finalement si intéressant que ça. Voilà, je suis quelqu'un en fait qui a peut-être un peu trop peur de la vue du sang, et si ça se trouve, je suis pas toute seule. Et donc, ceux qui n'aiment pas non plus ces polars trop médicaux, avec trop d'hémoglobine, peut-être aimeront les plumes. En tout cas, c'est ce que je souhaite, parce que je ne souhaitais pas m'adresser à autre chose que des personnes qui voient en l'énigme et en l'enquête quelque chose de plus intéressant que dans le sang et dans les éviscérations et les têtes et les bras coupés, etc., etc. Donc effectivement, le huis clos à la fin est un peu à l'Agatha Christie, bien que avec tout le respect que je lui dois, jamais j'oserais me comparer à elle. J'ai bien trop d'admiration pour cet auteur, mais c'est gentil à toi en tout cas de trouver que voilà, Simon pourrait avoir quelques similitudes avec les romans d'époque d'Agatha Christie. Ensuite, le huis clos, ben c'est vrai que les énigmes se prêtent un petit peu à ça, vu que j'ai justement pas souhaité de fin avec des tueries, des massacres, des choses comme ça. Je me disais que à un moment donné, il fallait bien expliquer au lecteur le cheminement et dévoiler un petit peu la personnalité du meurtrier aux gens, pour qu'ils comprennent un petit peu plus ce qui se passait dans l'histoire.
Il est écrit, Annabelle, sur la couverture de ce livre, Polar Vintage. Ça veut dire quoi ?
Eh bien justement, j'en parlais juste avant, polar vintage, ça veut dire que c'est pas un polar comme on en voit maintenant, avec justement tous ces trucs d'expertise médico-légale, toutes ces découvertes, ces recherches à travers la science, à travers les enquêtes menées dans des labos. C'est pas moderne, c'est vintage, justement à cause de ça. Et puis aussi parce que les années 20, ben on est en plein dans le vintage quand même. et voilà, c'est un polar à l'ancienne. C'est pour ça que j'ai appelé les enquêtes de Simon Polar Vintage, parce que c'est vraiment à l'ancienne. Ce que je voulais, moi, c'était privilégier la recherche intellectuelle, même si c'est du polar et que ça ne s'inscrit pas dans la littérature des plus philosophiques et des plus, je dirais, poétiques qu'on trouve. Ça reste du polar, ça reste du roman plaisir, ça reste quelque chose qui doit être accessible à tous, et finalement pourquoi pas du roman de gare, parce que finalement les gens lisent souvent dans les trains, et est-ce que les gens ont envie, en tout cas dans leur majorité, de trouver des choses violentes? Je sais pas, il y a tellement de violence en ce moment, notre siècle est tellement dans la guerre, dans le dans l'hémoglobine que voilà, je voulais pas rentrer là-dedans. Et ensuite, pour être très très honnête, j'avais vraiment pas envie de me taper des rapports médico-légaux avant de les écrire. Pas du tout envie d'aller voir ce que c'était qu'une autopsie. Donc j'ai fait ça avec mes connaissances à moi et avec tout ce que je pouvais supporter en tant qu'être humain et en tant que non-médecin sur les recherches médicales. Voilà pourquoi c'est vintage.
On sait, Annabelle, que, et d'ailleurs tu l'écris, hein, on retrouvera Simon et son spleen dans d'autres tomes, volume 2, volume 3, volume 4, et puis sans doute certains de ses personnages dans les prochaines enquêtes. Quand ?
Alors, mon éditrice vient de m'annoncer que le tome 2 devrait sortir mi-juin, en tout cas dans ces eaux-là. Et c'est un livre qui va se passer toujours, hein, c'est toujours Simon qui va enquêter. Il va enquêter dans ses années à lui, les années 1920, 1930, mais il va se retrouver plongé quelques années en arrière dans l'univers des cocottes, donc entre 1880 et 1900. Et effectivement, ça va être un petit peu difficile pour lui parce que il est italien, Simon, et il est assez pudique et il y a certaines choses dont on ne parle pas chez lui. Et là, il se retrouve dans l'univers de ces demi-mondaines où la pudibonderie n'est pas trop de mise et où les fêtes les fêtes très galantes, on va dire, et la débauche était plutôt quelque chose de recherché dans leur salon. Donc voilà, Simon va être obligé de sortir un petit peu de lui-même et d'oublier un petit peu sa pudeur et de rentrer dans les choses un petit peu plus sévères et dans le milieu, j'oserais dire... Allez, je prononce le mot sexuel très 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 assumé des cocottes, des prostituées, des demi-mondaines de l'époque. Voilà.
Merci Annabelle. Je rappelle donc le titre de ce livre, Les Plumes, une enquête de Simon. C'est publié aux éditions Ex Aequo. Et puis bien sûr, on peut retrouver l'actualité d'Annabelle sur son site. Et je vais te laisser le dire à nos auditeurs. Voilà, merci beaucoup. Et puis bonne journée Annabelle. Donc le site.
Oui, je te remercie Gérard de m'avoir invité et de m'avoir permis de parler aussi longuement de Simon et des plumes. Donc le site internet c'est www.annabelle, donc c'est annabelle-music-book.com. Donc là il y a effectivement plusieurs pages consacrées à la musique et puis une page consacrée à Simon et les plumes. Et puis je vous invite aussi à aller voir le site d'Ex Aequo de Laurence Schwalm, mon éditeur, qui est une personne passionnée et vraiment dévouée à la littérature. Et je vous invite aussi à aller feuilleter un petit peu les pages de ces auteurs et de partir à la rencontre d'autres personnes qui sont publiées chez elles. Voilà, donc j'espère que les plumes plaira à un maximum de personnes et voilà, je suis preneuse de commentaires pour ceux qui veulent bien en faire. En tout cas, merci à toi Gérard de m'avoir invité et de m'avoir donné autant de temps de parole.